programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
14h02 pardon, sur Radio Alpha. Boa tarde à tous et bienvenue pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Alors Antonin est avec nous, comment ça va Antonin?
Encore une magnifique semaine avec, en très bonne compagnie. Attends, on est ici à Radio Alpha avec des gens magnifiques.
Exactement, exactement. On accueille aussi notre experte Laura. Comment tu vas Laura?
Super, super contente d'être ici.
Hâte de nous parler de ta rubrique.
Super, hâte.
Parfait, alors d'ici, ça sera d'ici 15 minutes, ce sera le moment donc pour ta rubrique Arte Ondes. Et aujourd'hui au programme, culture, sport, musique et imagerie aussi pour enfants, puisque nous avons avec nous, et nous avons le plaisir d'accueillir Thiago Martins, qui est créateur de contenu sous le pseudo Portuguese Facts et auteur chez Cadamoche Édition. Comment tu vas?
Ça va très bien, merci pour l'invitation.
C'est avec plaisir, ça fait la troisième fois déjà que tu viens sur
troisième fois, ouais, tous les ans quasiment, donc c'est.
Un fidèle de l'émission.
C'est ma visite annuelle.
Eh ben écoute, merci beaucoup, on est très content de te recevoir. Tiens, petite question avant de continuer. T'es plus Porto, Benfica ou Sporting?
Leria. Non, Benfica, vraiment Benfica.
D'accord, alors ça aura son importance pour la suite. Restez avec nous pour savoir un peu plus sur tes projets et sur ce qui va se passer. Donc pendant l'émission, ce sera ton interview à partir de 14h50.
Avec plaisir.
En attendant, je vous laisse avec une musique. Et je parle ainsi de Victoria Nicole, la jeune chanteuse qui représentera le Portugal à l'Eurovision Junior ce soir.
Una vida mejor por todos mis sueños. Cada día un mes una montaña que mi alma apaña sin pensar no amanhã. Cada día una conquista que no final do día enche o meu coração. Eu acredito no meu sonho e vou lutar para día o concretizar. Várias portas se fecharam quando tentei entrar. Quase ninguém confiava, mas cheguei a acreditar. Dizem que a vida às vezes não é como se quer. Eu aprendi assim, não foi com os outros sequer. Foi comigo mesma, com os meus sonhos e ambições. Um desses sonhos é chegar aos corações. Porque tudo o que é música não são só canções. A minha história que canto com muito amor.
Vous êtes toujours sur Tempestade 2.1 et Antonin, tu as deux événements à nous présenter.
Exactement, et même limite trois événements pour le prix de deux, parce qu'en effet, hier j'étais au concert de Lucy Bella, mais il n'y avait pas que Lucy Bella, il y avait aussi Katia Semed qui était en première partie. Katia Semed, donc une artiste de Saint-Thomé et Príncipe de naissance, mais qui vient du Cap-Vert de son cœur et de sa famille, et qui a su faire vibrer la salle et faire danser la salle, tout comme Lucy Bella à qui elle a laissé la voix juste après, donc en deuxième partie. C'était un très très beau concert où les gens se sont levés pour danser. Donc c'est au Café de la Danse, une magnifique salle en plein 11e, tout près de Bastille. Et en fait, c'est une salle assise, normalement. Mais les gens-là étaient tellement pris par la cordadelle, donc la danse capverdienne, qu'ils se sont tous levés. Il y a vraiment des beaux moments de cohésion et d'amour dans ce concert. C'était un très bon moment. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver d'ici peu une interview qui a été réalisée juste après le concert de Katia Semedo sur le site de Cap Magellan. Et donc, le deuxième événement, c'est en rapport avec la musique qu'on vient d'entendre exactement. C'est celle où on parle de... l'Eurovision, car elle est de retour cette année, elle se passe ce soir à Madrid. Les 17 participants performeront tour à tour et je compte évidemment sur nous tous et toutes pour les encourager et surtout encourager Vitória e Nicole qui représente le Portugal avec Esperança qu'on vient d'écouter. Et bon aussi, mais il faut pas oublier les Français parce qu'on est portugais mais aussi français, Titouan qui représente la France avec Comme Si Comme Ça. L'année dernière d'ailleurs, Julia Machado qui avait terminé 13e en représentant le Portugal était passée au micro de Tempestade et d'ailleurs elles ont fait une vidéo ensemble, Julia Machado et Vitória e Nicole, ce matin, que vous pouvez retrouver sur leur réseau. Donc on compte sur vous pour suivre l'Eurovision ce soir.
Exactement, on soutient les Portugais à l'Eurovision Junior et on souhaite aussi parabéns à Lucibel pelo show. Donc n'oubliez pas de retrouver toutes ces informations ce soir pour l'Eurovision. Et tout de suite, on va s'écouter une nouveauté musicale. C'est sorti la semaine dernière, ça s'appelle Bye Bye et c'est signé Louyana Islam.
É uma batalha. Somos mulher alfa, almas poderosas. Somos mulher alfa, paixão luditana. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, arranca. Vai, vai, vai. Vai, vai, arranca. Arranca, arranca, arranca. Vai, vai, vai. Arranca, arranca. Bye bye bye, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu conheço o meu destino, orgulhosa que Deus me deu. Não tenho inimigos, não tenho. Melhor que eu te dou minha bendição. Se és um soldado em vivo, a bendição.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou o tempo para Arte e Ondas e hoje, Laura, vais falar de um artista que cada vez é mais conhecido.
Sim, hoje vou falar de outro artista que se destaca no panorama artístico de Lisboa. O seu nome é Restless. Como a Catarina Glam, que apresentei na última rúbrica, começou com o grafite em 2006 e com o tempo desenvolveu um estilo muito próprio. Com Arte em Ondas, o meu objetivo é falar de artistas, mas também mostrar que a arte não é só visual e estética. Tem uma função social, política, uma mensagem. Por isso é que gosto muito do trabalho do Restless. Acho que é um bom exemplo de um artista que tem talento, mas sobretudo, uma voz. Ele é originário da periferia de Lisboa e começou a explorar a sua criatividade através da escultura e da pintura. O seu trabalho leva-nos a um universo distinto entre ficção, realidade, mas sempre com influências do grafite. Já ouviram falar deste artista?
Sim, já ouvi falar um bocado, graças a ti, sobretudo.
Por acaso não tinha.
Eu tinha visto o trabalho deles, mas não sabia quem era.
Sim, então, a sua primeira exposição na Galeria Crack Kids, em Lisboa, chamada Classe Trabalhadora, é uma homenagem aos trabalhadores. As esculturas de Restless são personagens amarelos, de cara redonda, retratados de maneira cómica, mas com uma mensagem bastante clara. Por exemplo, a minha obra favorita, intitulada Joana. Nesta obra, vemos a Joana, uma empregada de mesa que está a servir, e é muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito séria. Na descrição da obra do Restless, podemos ler: a Joana sempre trabalhou para pagar as propinas, passa tanto tempo a trabalhar que nem põe os pés na faculdade. Uma obra que, à primeira vista, parece estética e divertida, é na realidade uma crítica ao sistema universitário português. O que é que acharam da Joana?
Olha, a Joana parece um Simpson, sobretudo com a cara amarela.
Não sei se ele vai gostar disso.
Eu diria mais não. Que nota-se um estilo um bocadinho Looney Tunes, parece um bocadinho Betty Boop.
Cartoon.
Neste estilo.
É verdade. E também gosto muito da mensagem, que é uma coisa muito importante para os estudantes que não têm possibilidade de fazer os estudos sem ter essa liberdade de não trabalhar ao lado. E boa sorte para todos eles que talvez não escutem.
Sim, é verdade, não estou não. Na mesma exposição, também gostei da escultura do Senhor Veríssimo, o Verdor. A descrição da obra diz: Senhor Veríssimo, linguarudo, trabalha desde sempre na mesma zona, conhece toda a gente que para ali mora. Qualquer pergunta tem a probabilidade de se tornar numa mentira de horas. Para Restless, a arte não é só estética. Também é uma maneira de realçar pessoas que vemos todos os dias, que são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade e que não costumam ser representadas. Eu acho que o seu toque e a sua visão até tornem a arte mais acessível. O que eu adoro no seu trabalho é que tem muito humor, mas pode tratar de assuntos sérios ao mesmo tempo. E para quem conhece a cultura hip-hop, eu acho que a influência do grafite está muito presente no seu trabalho. Muitas vezes os artistas que sigo, têm uma ligação com esta prática, com o grafite, então obviamente gosto muito do estilo do Restless no grafite também. Já tive a oportunidade de estudar o seu trabalho e de poder conversar com ele, e gostei muito quando ele disse, e cito: o grafite trouxe-me o escape necessário da vida comum e monótona que me esperava na zona onde eu cresci. É muito importante realizar o poder da expressão artística, seja ela qual for. Que o que pode ser visto como vandalismo é mais do que isso. Isso dá vontade de ir para Lisboa conhecer o seu trabalho, não é?
Ah, eu quero reservar um fim de semana para ir para Lisboa descobrir.
eu vou contigo.
Também queria.
Mas o Restless não faz só esculturas. Pintura, grafite, também é tatuador. Então é difícil não gostar do seu trabalho, porque é multifacetado. O trabalho dele vai muito além da estética. A sua obra recorda-nos que a arte tem o poder de questionar, de provocar e de contar histórias que, de outra forma, seriam invisíveis. Com esta rúbrica, é o que quero mostrar: que a arte é uma linguagem universal, um espelho da sociedade e que pode ser um canal de expressão tão variada quanto os próprios artistas. Afinal, a arte está em todo o lado. Basta olhar com atenção.
Que frase incrível para acabar a tua crónica. Olha, muito obrigado, Laura. Arte Ondas permite sempre descobrir muitos artistas. E continuamos logo com a rubrica Golo. Mas primeiro, deixo descobrir a última música da Liana, uma cantadora que já passou pelo Tempestad 2.1, chama-se Yo Soy.
Yo soy tu mirada, el color de tu pelo, son los besos de tu boca. Yo soy tu pensamiento, soy el agua que te bebe, la sangre de tus venas. Te tengo en mi mente, yo soy tu prisionero. Yo te espero y estaré siempre aquí.
Pienso que tu amor a mí me mantiene. Sin tus besos jamás no podré vivir.
Ouvir o Tempestade 2.1, daqui a 15 minutos será a entrevista do Tiago Martins. Podem emendar as suas perguntas no WhatsApp ao 06 62 10 98 e 60. Estou sempre a ver as suas mensagens na WhatsApp. E continuamos agora com a rubrica Golo do Ricardo, a nossa rubrica desportiva, não é, Ricardo?
É, sim senhor, e vamos começar com uma boa notícia. Ontem Portugal qualificou-se para os quartos de finais da Liga das Nações. A seleção venceu a Polónia 5-1 com dois golos do Cristiano Ronaldo e ele marcou o segundo golo de bicicleta. Ainda vou-vos perguntar, o Ronaldo, sempre o homem da situação? Tiago?
Sim, para mim é... E não gosto de dizer isso, mas... Porque não gosto de dizer isso de uma pessoa, mas para mim o Ronaldo... Portugal deve muito ao Ronaldo, não só no futebol, mas em tudo. Houve mesmo um efeito Ronaldo sobre Portugal. Ronaldo conseguiu tornar Portugal glamour na moda, para mim. E é incrível dele, com a idade que ele tem, ainda conseguir ter golos desses em frente à Polónia, porque houve muitas críticas que ele só goleava o Luxemburgo ou equipas claro. Pequenas lá na Arábia Saudita, mas agora é a Polónia, não é qualquer
equipa. Então por ti o Ronaldo ainda tem sempre o seu lugar na seleção?
Ah, isso é...
Ah, porque é isto que...
É impossível dizer que não, porque ele merece. Ele não merece... Que alguém diga-lhe que ele não tem lugar na seleção. Ele, por tudo o que ele deu, merece o lugar à vida na seleção. Mas é verdade que de vez em quando ele não joga, a seleção é outra dimensão, também joga bem. É uma pergunta difícil.
Bom, então depende dos jogos.
Não será eu que digo que ele não merece mais o lugar dele.
Depende dos jogos, então. Este fim de semana marca o fim da época de MotoGP. O Grande Prémio de Barcelona vai decidir o título de campeão do mundo entre Francesco Bagnaia e Jorge Martin. E é também o último, o de Miguel Oliveira, na Trackhaus. O piloto português será um piloto Pramac em 2025. Um novo desafio para o número 88, que ganhou 5 corridas e ganhou uma em Portugal. Continuamos a falar de motores. O português Rui Marques é o novo diretor da corrida da Fórmula 1. Substitui o Niels Wittich, que deixou o cargo esta terça-feira. Rui Marques trabalhou na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e foi adjunto do diretor de corridas na Taça do Mundo de Carros em Turismo.
Ricardo, eu acho que não falaste de um partido de futebol.
Ah, ok. Bom, vamos falar então de um assunto delicado para alguns membros da equipa.
Claro.
O jogo Benfica-Porto. Para começar, alguém viu o jogo?
Não, eu escondi-me no meu quarto.
Eu acho que vi, acho que...
Mas era só para maior de 18 anos, puderam ver na mesma.
Bom, para quem vem no jogo, faltaram uns dos melhores jogos da época. Resultado, 4 golos contra 1 para o Benfica. Uma das piores derrotas para os Dragões. Imagina, o Benfica não marcava 4 golos ao rival desde o dia 13 de dezembro de 1964. Na conferência da imprensa, Bruno Leja expressou o seu orgulho, mas de forma humilde.
Acho que não é só o terceiro anel, somos todos. Todos os benfiquistas devem estar orgulhosos daquilo que fizemos hoje, que foi uma exibição ao Benfica. Foi do primeiro ao último minuto, com uma grande exibição, uma exibição ao Benfica. E é uma vitória muito justa da nossa parte.
Muito reservado, o Bruno lá, já acharam?
Claro, claro. Tem que ser.
Ele venceu o Porto 4-1. Não sei.
Pois, eu tenho a certeza que se fosse do outro lado, o Porto a vencer o Benfica com o 4-1, os portistas não iriam ser tão moderados.
Para um homem que infligiu uma enorme derrota, ele ficou muito calmo. E por seu lado, o treinador do Porto, Vítor Bruno, quer voltar de imediato ao trabalho.
No olhar, obviamente, temos de deixar uma marca diferente. Temos que ser mais Porto, mais audazes, mais ambiciosos, mais intensos, mas também não querendo escudar-me. Eu disse isso no lançamento do jogo, que não ia fazer disso um escudo protetor. Mas acho que este ciclo é preciso repensarmos aqui algumas coisas também no nosso campeonato, na Liga. Ainda assim, foi como lhe disse: o Benfica ganhou bem. É preciso repensar algumas coisas aqui dentro e trabalhar muito. Obviamente estamos à 11ª jornada, falta muito campeonato ainda, não está nada resolvido, tudo está em aberto, temos de continuar a dar passos em frente.
Um clássico que cumpriu todas as suas promessas, mas queria-vos perguntar uma coisa, sabe a história do clássico Porto-Benfica e porquê que estas duas equipas são rivais, Laura?
Não, eu não sei.
Não sabes? Então não?
Sempre pensava que era só porque era a capital e a melhor cidade do Portugal, do Porto.
Claro, tens uma ideia?
Porque as duas cidades com mais pessoas, é um bocadinho como em França, o Paris e o Marselha é um clássico, porque é uma rivalidade entre duas grandes cidades, duas mentalidades também diferentes, porque a capital é os lisboetas, é, na ideia, um pouco mais educados, e o Porto era mais trabalhadores, mais pobres, e era uma... Como uma rivalidade também que pode haver no Madrid, com o Atlético e o Real Madrid, que eram duas posições diferentes, ou até a rivalidade entre o Sporting, que é o clube da elite, vamos dizer, e o Benfica, que era mais popular. Para mim, pois é isso, é as duas grandes cidades portuguesas e as duas, os dois clubes também mais históricos de Portugal.
A rivalidade entre os dois clubes reflete sobretudo do forte antagonismo entre as duas maiores cidades portuguesas, que remonta ao início da era industrial. Portugal, na altura, muito regionalizado, optou rapidamente para centralizar todo o poder em Lisboa, deixando quase nenhuma autonomia aos municípios e regiões. O Norte, liderado pelo Porto, começou a nutrir um certo ressentimento em relação à capital. Por outro lado, Lisboa, tal como Paris, com os seus provincianos, despreza todo o resto do país. Bom, é um clichê, mas é um bocadinho de verdade, não, Adão?
Os clichês sentem uma parte de verdade, é por isso.
Sim, sim. Sobretudo o Porto, que se comportou como uma cidade revolucionária. O primeiro encontro teve lugar no dia 24 de março de 1935, em Lisboa, no estádio Campo das Amoreiras, com 20 mil adeptos. O Benfica venceu por 3-0, mas foi o Porto que se sagrou campeão nessa época. Ao longo dos anos, a rivalidade entre os dois clubes tornou-se cada vez mais intensa, sobretudo durante a era do Pinto da Costa, o antigo presidente do Futebol Clube Porto. Este fervoroso defensor do regionalismo trouxe uma cultura vencedora para os Dragões. Em 30 anos, Pinto da Costa conquistou mais de 70 troféus. Um registro impressionante que permitiu ao seu clube reduzir a distância entre os dois rivais. E Pinto da Costa gostava muito de provocar Benfica.
Acha que o Benfica pode falar em futebol? O Benfica tem que falar de qualquer coisa, nem que seja da Guerra Civil de Espanha. Agora, do futebol é que não pode falar. Estão em 5 jogos, tem 0 pontos, é um recorde. Nunca houve um cabeça de lista, um clube do Pote 1, que na quinta jornada tivesse um score de 1-12 e 0 pontos. Acha que o Benfica pode falar de futebol? Eu, se fosse só Benfica, até falava das guerras de Alto-Barrota e de tudo o que eles quisessem. Agora, do futebol, é óbvio que não podem falar.
Bom, os benfiquistas, algum comentário sobre o Pinto da Costa? Laura?
Não sei se posso dizer o que penso.
Dá bem.
Não, mas é interessante, eu também gostava muito que o Benfica falasse da Batalha dos Barota, dessas coisas, era interessante. Chamava a atenção a história portuguesa a muitas pessoas.
Bom, depois é melhor falar sobre o resultado do desporto, não? Então, não?
É claro, desta vez o resultado não foi tão bom, mas da próxima vez vamos ganhar.
Não, é verdade que misturar guerras e futebol nunca dá. Nunca, e nota-se agora na atualidade, nunca é bom misturar futebol e guerra.
Não, acho que é melhor não misturar, mas sobretudo é o caráter do Pinto da Costa. Porque imagina, desde que ele chegou no Porto, opa, houve uma revolução, houve alguma coisa pois, que
e desde que ele abalou, nota-se também que já não é o mesmo Porto.
Também, olha,
para ele ter... e o macaco, já não lembro o nome do macaco, o Ultra do Porto, que foi para a prisão.
Ah, não sei.
Houve dois, era o Brahme, vamos dizer, do Pinto da Costa. Desde que os dois foram embora, o Porto não é o mesmo.
Olha, houve mudanças no Porto, mas como disse o Vitor Bruno, é um novo ciclo e vai demorar um bocadinho de tempo para se construir uma nova equipa, uma nova identidade.
Não, mas eu acho que agora o Sporting é que está no top e vai ser agora. Durante muito tempo foi Benfica, Porto, agora é o tempo do Sporting também apanhar mais luz.
E sobretudo, ao falar do Sporting, o Ruben Amorim já foi para o Manchester United. Tens algum, não vou dizer medo, mas pensas que o Sporting vai ser um bocadinho menos perfumante?
Um bocadinho, mas eu estou mais com medo é para a próxima temporada, porque agora a equipa está rodada, já estou habituado, o staff vai ser o mesmo, mas para o ano, porque há muitos jogadores, o Gyökeres, há muita chance que ele saia do Sporting, para o ano é que vamos ver.
Está bem. Desde então, a rivalidade Porto-Benfica está no hoje. E para acabar, vou-vos dar três dados sobre o clássico português. Para começar, tem uma ideia do resultado da maior vitória num clássico, Laura?
Não faço ideia.
Faço ideia, mas acredito que vai ser o Porto. Ganhou.
Deve ser mais, porque era na época quando o fora de jogo não existia, nem nada, havia muito mais golo, parece-me, não. Era para ir um 10 ou 15 a qualquer coisa.
O Benfica ganhou 12-2 contra o Futebol Clube Porto no campeonato da época 1942-1943. Segundo recorde, o Porto sagrou-se campeão português por 3 vezes no estádio do seu eterno rival. E terceiro recorde, sabe quem do Porto do Benfica ganhou mais clássicos?
Isso é o Porto.
Ah, vou dizer Benfica.
Benfica, agora?
Se o Antônio não sabe, então vou dizer o Porto também.
Porto? É o Porto, claro. Em 250 jogos, 100 vitórias para o Porto, 88 para o Benfica e 62 empates. Ao final, este clássico é um dos mais famosos do mundo, um jogo que revela as paixões das duas equipas e dos jogadores. Os adeptos são apaixonados por este jogo e, numa mesma família, podemos ter portistas e benfiquistas. Não sei se é o vosso caso.
Na minha, porque eu sou da Zona Centro, por isso é raro ter pessoas que são do Porto, mas há mais um bocadinho sportinguista e benfiquista. A maioria é benfiquista, mas há alguns sportinguistas.
Sim. Então, o meu pai é de Trás-os-Montes, mas são benfiquistas. A minha família é de Benfica também.
Uau. Na minha família não falamos muito de futebol, mas acredito que são todos de Porto. Mas tenho uma amiga que, na sua família, a avó dela, porque o seu avô, o marido dela, era do Benfica, acredito, ela tornou-se num supporter do Porto ou do Sporting, só para chatear com ele. Isso acho muito interessante, muito engraçado. E vamos acabar a tua rubrica Golo aqui. Muito obrigado.
Para juntar mais uma coisa, porque eu tive a sorte de viajar muito na minha vida e não sei se é o caso do Porto, mas tenho a certeza, porque vi dos meus olhos, que há escolas do Sporting e do Benfica um bocadinho por todo lado no mundo, mas nunca vi uma escola do Porto fora de Portugal. Porque eu estive a viver em Singapura e lá havia uma escola do Sporting, estive também em Macau havia um clube ligado ao Benfica, mas nunca vi nada com ligação ao Porto.
É verdade o que estás a dizer. Também podemos pensar que há o Sporting Paris em futsal, que faz bons resultados. E nós fomos lá a semana passada com a Julie ver o jogo e podemos ver que há verdadeiramente uma comunidade de sportinguistas em todo o mundo e de benfiquistas. Mas o Porto é mais raro.
Depois é isso. O Porto é mais raro em Portugal, ou aqui em França, porque há muitos portugueses, mas ao nível internacional parece que há fama e que há... Com o lado empresarial dos clubes é mais o Benfica e o Sporting. E também, em todo caso, a melhor escola, apesar de sermos esportista ou benfiquista, a melhor escola de futebol em Portugal é o Sporting.
Ronaldo, Figo, Quaresma, Nani, há muitos jogadores que passaram para o Sporting.
Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Ricardo, pela tua rubrica desta semana. Podemos encontrá-la nos podcasts da Tempestade, que agora já sabem, estão disponíveis em todas as plataformas. E para as pessoas que ainda não puderam ouvir a rubrica da Laura, Arte em Ondas, hoje ela falou de que artista é que falaste?
Falei do Restless e, aliás, ele ouviu. Ele esteve a ouvir a minha rubrica e gostou muito. E agradeceu e disse que não podia descrever melhor o seu trabalho, então fico muito contente.
É, yeah, claro, claro, acredito. E tenho certeza.
Estou para ver como é que vão descrever o meu trabalho, então.
tenho certeza que vai ser muito bom também, acredito. Mas espero que estão todos a passar um bom momento aqui dentro da Tempestade. Já voltamos daqui para 8 minutos para o momento da entrevista, claro, com o Diogo Martins. Até já.
Tu t'endors toujours avant. Avoue que le silence fait du bruit. Pourquoi suis-je si différente? Ah, c'est une bonne question, je divague. Les draps sont tachés de larmes. Je sais pas ce qui me fait pleurer, mais j'aimerais qu'on en parle. Tu t'endors toujours avant. Moi je me raccroche à tes respires. Ça se trouve, je suis plus de ce monde. Putain, mais qu'est-ce que je dis là? Je fais pas d'insomnie. Bah non, c'est pire que ça. Je me transforme en ovni. Le seul qui me fait du mal. Même si tu me disais que ça va passer, j'aurais du mal à croire. Si j'étais la première à ne jamais sortir de ce trou noir, manquerait plus que je sois du genre à bader sans aucune drogue. Si c'était la dernière fois que je combattais les millions de chocs. Maintenant on donne tout. Expirer c'est tout. Non t'es pas seul tout. La putain de meuf que t'es devenue. Elle a des faiblesses. Par contre la délaisse. Du courage surtout. Le genre qui passe toujours au-dessus. Maintenant on donne tout. Maintenant on donne tout. Maintenant on donne tout. Maintenant on donne tout. Mon pouls qui accélère à sa guise. Oups, traumatisme dans l'air, voilà l'emprise. Moi, trop mimi, j'ai si peur de découvrir que là où j'ai mal se cachent de mauvais souvenirs. Oups, si tu me disais que ça va passer, j'aurais du mal à croire. Si j'étais la première à ne jamais sortir de ce trou noir. Que je sois du genre à pâter sans aucune drogue. Si c'était la dernière fois que je combattais les millions de chocs. Maintenant on donne tout. Expirer c'est tout. Non t'es pas seul tout. La putain de meuf que t'es devenue. Elle a des faiblesses. Par contre la délaisse. Du courage surtout. Le genre qui passe toujours au-dessus. Maintenant on donne tout. 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 Expirer c'est tout. Non t'es pas seul tout. La putain de meuf que t'es devenue. Elle a des faiblesses. Par contre la délaisse. Du courage surtout. Le jour qui passe toujours au-dessus. Maintenant on donne tout.
Radio Alpha. Tempestade 2.1 sur Radio Alpha. C'est le moment d'interviewer Thiago Martins. On a plein de questions à te poser, d'ailleurs chez vous, n'hésitez pas à en poser également avec le WhatsApp. Antonin, je te laisse poser la première question.
Exactement, mais écoute, Thiago, tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et auteur chez Cadamost Édition. Si nous te recevons aujourd'hui une nouvelle fois, c'est principalement pour parler justement de ton imagier des petits lusophones. Comment est né ce nouveau projet?
Il est né comme mon fils. J'ai un fils qui est né. Et du coup, avec lui est née aussi l'envie de lui apprendre le portugais. Et c'est difficile, de toute façon, enfin, voilà, on va pas s'éterniser sur le débat, c'est un constat que tout le monde partage, c'est très difficile d'apprendre le portugais en France. Heureusement qu'il y a des petites associations qui le font encore, ou des écoles privées, enfin des associations qui font ce guise d'école qui le font, mais apprendre le portugais facilement, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est encore plus compliqué, justement, pour des enfants, bah, comme mon fils, qui a 1 an, 2 ans, en tout début, parce que c'est, il y a aucun support, il y a rien qui était prévu, pour eux. Il y a des livres au Portugal, pour apprendre le portugais aux enfants portugais. En France, il y a des livres en français pour apprendre en français, mais des trucs bilingues. J'ai trouvé des trucs sur Internet, mais des trucs très cheapos, vraiment des trucs, des gens qui font des bases avec des bases de données, des images, enfin voilà, il y a rien derrière. Et donc moi j'ai eu cette envie de créer un livre, un imagier pour apprendre le portugais aux enfants, aux tout petits, avec justement en utilisant mais un truc qui quand même qui réfléchit, qui est bien pensé. C'est donc dans ce premier imagier il y a plusieurs scènes et ces scènes servent à donner des mots dans les deux langues, mais c'est des scènes qui nous parlent justement, c'est des scènes qu'on a vécues, le voyage en voiture, les retrouvailles avec les grands-parents, les grandes tablées avec la famille, la fête de village. Et donc pour tout ça, j'ai été puisé vraiment dans mon expérience, dans ma vie. Justement, j'ai même utilisé des éléments du décor. J'ai envoyé à l'illustratrice, Romane Mendes, très talentueuse que je vous invite à suivre aussi également, des images de mon village pour qu'elle représente vraiment les éléments de mon village. Donc comme ça, j'ai pu faire le clin d'œil avec mon village parce que je suis très chauvin. Et du coup, tout ça, ça peut donner un premier pied aux enfants pour apprendre plein de mots en portugais. Et aujourd'hui, mon fils a 2 ans, 2 ans et demi presque, et c'est impressionnant, il m'impressionne moi-même. Bon, après, je suis son père, donc je suis pas impartial, mais il arrive à switcher d'une langue à l'autre. Quand je lui dis ce mot-là, comment on le dit en portugais, il sait le dire en portugais. Il sait dire plein de choses, bah, des trucs tout bêtes, hein, comme bah, bonjour, à demain, vache, voiture, enfin, plein de petits mots comme ça, mais je suis persuadé que justement, c'est comme ça que dans quelques années, il pourra parler portugais correctement. Enfin, de toute façon, à cet âge-là, les enfants, c'est des éponges. Et
C'est ça, c'est surtout que dès l'enfance, en fait, c'est là où tu dois apprendre le maximum.
Et comme les gens sont feignants, moi le premier, ce que je voulais, c'était donner un outil aux jeunes parents comme moi, ou aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, enfin voilà, à tout le monde, d'avoir un truc clé en main, vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce qu'on peut se dire, bon, bah, j'achète un imagier français et de moi-même, je le traduis, etc. Mais le cerveau humain est feignant. Et en plus, là, c'est vraiment des scènes. Et j'ai fait attention, il y a des petits détails dedans, justement, j'ai vraiment réfléchi le truc. Par exemple, on a souvent cette déformation de dire puberlash. Puberlash, c'est pas du portugais. Et donc, du coup, l'illustratrice a dessiné la poubelle pour que souvent qu'il puisse mettre lixo et soufa, pas canapé, plein de petits trucs comme ça. Donc, j'ai fait attention à incorporer sans plein de petits détails comme ça pour que.
Ou bilou,
peut-être dans les prochains. Donc, du coup, là, le premier est sorti. Donc, parce que le truc, j'ai déjà pensé en 4 volumes. Le deuxième, là, il est fini, il va partir en impression prochainement. Il devait être prêt pour Noël, mais il y a eu quelques contretemps avec l'éditrice. Mais il sortira, du coup, en courant d'année prochaine. Et le premier, donc, du coup, c'est Vive les vacances. Donc, ça raconte justement ces préparatifs de voyage, etc., pour aller en vacances. Et le deuxième, ça sera une découverte de tout le Portugal, du nord au sud, en passant par les îles. Le troisième, ça sera l'histoire. Et le quatrième, la lusophonie, de façon générale.
Sacré tome, oui, sacré programme, vraiment. Et donc, bah, tu nous as déjà un peu parlé de tous ces thèmes, à la fois que c'était un besoin personnel et du coup que tu voulais proposer une résolution à ce problème. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'équipe? Est-ce que vous pensez que c'est un truc que vous auriez aimé en étant enfant, avoir ce genre d'accès à ce genre d'outils? Enfin,
Oui, carrément. Franchement, bon, moi, si je parle portugais aujourd'hui, désolé à mes parents qui m'écoutent probablement, mais c'est grâce à mes grands-parents. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé en portugais. Donc, c'est pas quelque chose qui... J'aurais pu ne pas savoir parler portugais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu mes grands-parents. Et c'est vrai que ça aurait peut-être pu aider mes parents d'avoir ce genre de contenu.
Bah, moi, personnellement, c'est du coup, grâce à mes parents, alors, ils m'ont inscrit au cours de portugais, justement, dans des associations qui sont en partenariat avec le ministère portugais. Au début, c'est très fatigant d'y aller parce que c'est le samedi, t'as envie d'être en week-end, tu veux te reposer. Mais finalement, en vrai, j'ai envie de leur dire merci parce que justement, c'est ce qui est très important de comprendre, la langue, de comprendre l'histoire de ton pays, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Je trouve que c'est important quand même quand on va là-bas. Pareil pour tout ce qui est culture, tradition, etc. Et donc justement, bah, tes ouvrages permettent de faciliter un petit peu tout ça. Donc t'avais déjà, tu viens de nous répondre justement sur combien de tomes prévus,
4. Ouais.
Mais justement, le type de public visé, bon, on l'a dit, c'est les tout petits. Est-ce que c'est à partir de quand l'enfant commence à s'éveiller? Donc je dirais peut-être, je sais pas, un an et demi, deux ans. Et est-ce que tu as juste peut-être une limite d'âge, peut-être, je sais pas, entre CP
Bah, après, je pense que ça peut servir. Enfin, même ma femme, par exemple, du coup, elle aussi, ça lui sert, parce qu'elle n'est pas portugaise, ma femme. Ça lui sert à. Enfin, maintenant, elle l'est par alliance.
tu lui as appris.
Voilà, mais enfin, même elle, ça lui sert, du coup, parce que mon fils, justement, demande à regarder le livre et tout. Donc, même elle. En fait, ça peut aider, justement, les gens qui sont comme moi, qui sont des couples mixtes, entre guillemets, mais avec le conjoint qui ne parle pas forcément le portugais, bah, ça peut être une occasion aussi d'apprendre plein de petits mots. Et donc, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge haute, et en limite d'âge basse. Enfin, après, honnêtement, ça, c'est des trucs des études et tout, c'est très compliqué. Mais moi, ce que j'ai remarqué avec mon fils, parce que du coup, mon fils, il a suivi le projet, c'était mon bêta-testeur, c'est que là, vraiment, à deux ans, donc j'avais commencé avant, mais au début, il comprenait pas très bien. Mais là, depuis qu'il a deux ans, il arrive vraiment à comprendre que c'est deux langues différentes.
Super. Et comme tu l'as dit avant, cette série, elle est illustrée par Roman Mendes. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment tu l'as choisi? Pourquoi son travail en particulier?
Bah, parce que déjà j'aimais bien son travail, enfin visuellement j'aimais bien ce qu'elle faisait. Donc on avait échangé déjà sur Instagram parce que j'avais demandé, enfin elle avait fait une affiche pour moi dans le cadre de la promotion de mon premier livre sur la gastronomie, où justement c'était une affiche sur les petits, d'ailleurs il y en a quelques-unes à Radio Alf, et ça s'était très bien passé, j'avais beaucoup aimé. Et pour moi c'était très important que ça soit une luso, enfin comme nous, parce que je voulais que Yes qu'elle comprenne, parce que là justement, donc du coup moi j'ai fait des croquis, je lui ai envoyé des croquis que elle a dessiné avec talent, parce que moi j'ai pas de talent de ce point de vue-là. Je sais faire plein de choses mais dessiner c'est pas pour moi, donc je faisais vraiment des croquis des bonhommes avec des traits quoi, et avec des moodboards de ce que je voulais, etc. Donc elle a vraiment compris ce que je voulais, parce que justement elle avait une histoire que nous, donc c'est une histoire qu'on a tous, une histoire en commun, et c'était très important pour moi que c'est quelqu'un qui ait vécu ça pour voir que ça se ressente à travers son dessin, et elle a très bien fait.
Et qu'est-ce qu'elle a pensé de l'idée au début?
Ah bah elle a adoré, et là pour le deuxième, donc du coup elle a fini le travail, enfin le deuxième les illustrations sont finies, la mise en page est en cours, donc le deuxième sortira courant d'année prochaine, et du coup là moi j'avais fait mes croquis aussi, et même elle, comme on s'entend bien, elle a proposé de faire un peu différemment avec un autre format, mais enfin vraiment c'est génial, j'adore son travail, et j'ai hâte aussi que le deuxième sorte et que vous puissiez voir le deuxième. Je reviendrai en discuter du coup pour la prochaine saison.
Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Cadamost Edition pour le projet? Quelle est un peu la relation l'État avec Sandra Canivet-Dacorche, c'était l'éditrice?
Parce que c'est je devrais pas dire ça fait pas très pro, mais je fais ce que je veux. C'est vraiment, j'ai carte blanche. Enfin, c'est même pas elle. Enfin, moi, je l'ai contactée parce que du coup, le premier livre, ça s'est très bien passé. On a été récompensé au niveau international, même pour le livre sur la gastronomie, l'histoire de la gastronomie. Donc, c'était génial. Et donc, je lui ai dit, je veux faire ça. Elle m'a dit, d'accord, fais-le. Et voilà, j'ai fait. Et vraiment, ce que j'aime bien, c'est vraiment, elle me fait confiance et je lui fais confiance. Et donc, du coup, je fais vraiment ce que je veux de A à Z. Donc, elle, vu ça, elle apporte son expertise, son réseau pour les imprimeurs, pour tout ça, enfin, pour tout ce qui est faire les trucs sérieusement, parce que c'est quand même un truc sérieux, hein, c'est un livre de qualité. Tout son réseau, mais vraiment le côté idée, créatif, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, quel mot je choisis de représenter, c'est vraiment, j'ai carte blanche, quoi.
Ah, c'est absolument génial. Et donc pour rappeler, donc l'Imagier des petits lusophones est sorti fin juin dernier, mais ton premier ouvrage dont tu parlais juste avant chez Cadamost est sorti en octobre 2022, l'histoire du Portugal dans mon assiette. Donc on t'avait reçu d'ailleurs à l'occasion de cette sortie. Donc 63 chefs ont participé à ce projet. Pourquoi parler un peu de l'histoire à travers la nourriture justement? Et ça marche mieux.
C'est une invitation. En fait, moi ce que j'aime et ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est de la vulgarisation, parce que comme je disais, on est tous feignants. Moi le premier, hein, c'est pas une critique, c'est un fait. On est feignants. Faut quand même avoir envie d'avoir cette curiosité d'aller creuser, chercher, etc. Et les gens vont facilement acheter un livre de cuisine, mais difficilement acheter un livre d'histoire. Et donc du coup, ce livre, c'est un prétexte. Donc les gens vont acheter un livre de cuisine pour faire des recettes, et c'est très bien. Même moi, je le fais souvent. Mais justement, il y aura ce petit plus de l'histoire, de s'enrichir culturellement, de comprendre l'histoire du Portugal à travers la gastronomie justement.
En fait, tu veux bluffer du coup tous les acheteurs de ce livre.
Non, parce que justement, ils en ont encore plus pour leur argent, parce que au lieu d'acheter juste un livre de cuisine, parce que
ils ont un livre d'histoire en plus.
Ils ont un livre d'histoire en plus, et ils ont même un peu un livre biographique où je raconte mon histoire, qui est l'histoire commune de toute notre génération. Quoi.
Bah écoute, alors franchement, c'est un livre qui, c'est plutôt une série de tomes d'ailleurs qui vont sortir très rapidement, donc on a hâte de les acheter. De les lire, hein, si vous avez des enfants en bas âge, c'est une très bonne idée. Il est bientôt 15h, on revient juste après pour continuer la conversation avec toi, Thiago, notamment sur la création de contenu et puis sur toi en général. sur ta marque Portuguese Facts. On s'écoute une musique que tu as choisie d'ailleurs, Fonde de Paul Elson et T-Rex.
Não tá a me ver, puxa o zoom. Quando eu acelero, sou broom. Quero viver cada segundo. Não consigo agradar todo mundo. Quero viajar pelo mundo. Quero chegar até o fundo. Sei quem sou e nunca me confundo. Sei quem sou e nunca me confundo, não. Não tá a me ver, puxa o zoom. Quando eu acelero, sou broom. Quero viver cada segundo. Não consigo agradar todo mundo. Quero viajar pelo mundo. Quero chegar até o fundo. Sei quem sou e nunca me confundo. Sei quem sou e nunca me confundo, não. Vou fazer rally na cara do nigga, porque eu tô fresco e eu tô bali. Cali a tua boca, porque aqui a tua opinião não vale. Sali pra chutar o bruxo, tá bem amarrado, vai dar male. São tantos bendões na minha idade, isso não é normal, então vê só. Tô bem pousado na street, então vim tirar foto. Peço. Hoje eu faço money, mas ontem me chamaram louco. Peço. Miúdas tão loucas, só querem vir me dar o corpo. Peço. Mesmo assim, quando eu quero chegar, isso ainda é pouco. E nessa longa caminhada, perdi o melhor amigo. Mas eu sei que estás comigo, porque sozinho não consigo. Sozinho não consigo. E enquanto tiver forças, não deixo a minha vibe morrer. Eu sou o que melhor sei ser. Não estás a me ver, puxa o zoom. Quando eu acelero, sou broom. Quero viver cada segundo. Não consigo agradar todo mundo. Quero viajar pelo mundo. Quero chegar até o fundo. Sei quem sou e nunca me confundo. Sei quem sou e nunca me confundo, não. Não estás a me ver, puxa o zoom. Quando eu acelero, sou broom. Quero viver cada segundo. Não consigo agradar todo mundo. Quero viajar pelo mundo. Quero chegar até o fundo. Sei quem sou e nunca me confundo. Sei quem sou e nunca me confundo, não.
Peguei no game, Ali. Hoje o meu nome na boca do air, Cari. Levo a tua nega no dentista, precisa de análise. Todos meus niggas são loucos, não ando com criança normal. Só não tenho, tu tens, eu sei que de qualquer forma tô pali. Um gajo anda, e essa grife que eu pus balança. Essa shit não é grife, isso é samba. O bote do Judle parece que tá puxar catarro. Quando ela arranca, faz bita miúda, mexe a anca. Ontem a tempestade era tanto.
h 02, vous êtes toujours sur Radio Arfa pour l'émission Temstad Deutsch Ponton. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à tous. On est toujours avec Thiago Maltisch, créateur de contenu mais aussi auteur. Alors justement, on en parlait un petit peu en off, et d'ailleurs je me posais une question que je ne suis pas le seul à me poser, puisque Loïc de Compte Portuguese France a également posé sur le WhatsApp. Sur les réseaux sociaux, on te connaît plutôt sous le pseudo de Portuguese Facts. Donc t'es sur Instagram où t'es suivi par plus de 16 000 personnes, Facebook, plus de 5000 personnes, mais aussi tu as X, anciennement Twitter, TikTok, YouTube. Comment tu as commencé? Comment tu t'es dit, je vais me lancer dans la création de contenu?
Parce que, un peu comme je racontais là pour mon imagier, il y avait un vide. Et en fait, moi, je supporte pas de rester les bras croisés à rien faire. Quand il y a des problèmes, je suis très critique. Je suis quelqu'un de très exigeant et j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, mais je suis très critique. Quand il y a des problèmes, pour moi, faut en parler. Faut mettre le doigt dessus et il y a des trucs à régler. Mais critiquer pour critiquer, c'est pas intéressant. Faut critiquer. Faut proposer quelque chose. Faut aider. Donc là, pareil, je critiquais par exemple le fait que c'est compliqué l'enseignement portugais. Donc j'essaie d'amener ma petite pierre à l'édifice pour contribuer au fait de promouvoir la langue portugaise. Pareil pour la cuisine portugaise, je trouvais ça triste qu'elle soit pas mise sur un piédestal. Donc j'ai contribué et en plus j'ai eu la chance d'être invité sur Europe 1, sur France Bleu, etc. Donc pour contribuer à promouvoir la cuisine portugaise. Et donc pour revenir à la genèse de ça, à l'origine, c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu tapais portugais à l'époque, t'avais que des clichés grossiers, vulgaires, que tout le monde voit. Cara, il faut des monosourcils, moustache, je suis alcoolique, je pète non-stop. Donc voilà, c'est
qui perdure encore aujourd'hui pour certains.
Qui perdure, ouais, qui perdure. Ça s'est calmé un petit peu, mais de temps en temps, ça revient ponctuellement. Et moi, enfin, c'est pas que je lutte contre ça, parce qu'il faut de tout. Mais justement, le problème, c'est qu'il y avait pas de tout. Il y avait juste un. Et je trouvais ça très réducteur. Surtout comparé à l'histoire qu'on a, même l'histoire de nos parents, de notre immigration, c'est quand même une histoire qui est dure. Enfin, nos parents sont très méritants, et c'est, je trouvais ça triste de résumer à caral, monosourcil, et s'il vous plaît, enfin voilà, tout le monde a l'idée. Donc, je me suis, il y a rien qui existe. Je vais essayer de proposer quelque chose de plus intéressant, puisque je suis fan de l'histoire portugaise, de la culture portugaise. Donc, j'ai essayé de mettre à contribution mes connaissances, d'essayer d'avoir un peu les codes des réseaux sociaux pour promouvoir la culture portugaise au sens large. Et petit à petit, comme ça, tac, 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 c'est monté. Il y a une audience qui s'est trouvée. Après, voilà, j'ai aucune prétention avec ce truc-là. Je fais ça parce que j'aime ça. Ça me rapporte rien. Mais il y a beaucoup de gens qui partagent mes opinions. Et ma grosse crainte, en fait, c'était que l'omniprésence du portugais, c'est un cliché, ça éloignait des gens justement de leurs origines, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvaient pas dans leurs origines portugaises, du coup qui disaient je suis plus portugais en fait. Et donc moi, ces gens-là, je leur dis non, attends, on est, il y a pas que ça au Portugal, il y a aussi des gens qui pensent différemment. Et donc voilà, c'est comme ça que s'est créé un peu une petite communauté autour de ça.
D'ailleurs, tu as commencé sur Facebook et Instagram avec des posts assez simples, ouais, informatifs. Et puis maintenant, quand même, tu t'es mis au réel, tu fais des vidéos plus courtes. Est-ce que c'est une façon de s'adapter au code?
Faut s'adapter. En fait, c'est un des problèmes de la communauté portugaise, si on peut dire. Après, voilà, le terme communauté ne fait pas consensus, mais faut suivre le mouvement. C'est comme ça. Faut suivre, faut s'adapter. C'est pareil. Facebook, il faut passer à Instagram. Instagram, faut passer à TikTok. Enfin, c'est un mouvement perpétuel.
Tu penses justement qu'il y a un problème de modernité ou de vouloir s'adapter en permanence?
Après, oui, ça, enfin, là c'est un autre débat, mais je pense aussi que c'est un problème, ce truc-là, parce que enfin, même moi là, par exemple, je vois TikTok, j'y arrive pas. Instagram, ça va, j'arrive. Je suis un peu sur TikTok, mais voilà, en gros, je relais ce que je mets sur Instagram, mais en moins bien, parce que du coup, ça marche pas très bien. Mais voilà, donc, mais j'ai pour assurer une petite présence, mais c'est pas, voilà, mon public n'est pas sur TikTok, plus sur Instagram, et de plus en plus sur Facebook, avec parce que là, le fait de faire des vidéos, ça marche, c'est un succès sur Facebook, notamment quand je parle de ma grand-mère, quand je parle des vieilles motos portugaises, quand je parle des fêtes médiévales, c'est des vidéos qui vraiment, ça me surprend l'engouement qu'il y a autour, je suis agréablement surpris. Mais ouais, du coup, il y a ce côté aussi, le petit format texte, ça me demandait beaucoup, beaucoup de travail.
Oui.
Et là, j'ai fait beaucoup de vidéos parce que cet été au Portugal, justement, j'ai fait un stock des vidéos qui m'a permis d'avoir un stock de reels à publier. Là, j'arrive à terme, il me reste plus que deux vidéos en stock des vacances. Donc on va voir. Là je ferai probablement un reel justement de mon passage vers Radio Alpha. Donc si les gens sont intéressés à voir les coulisses de Radio Alpha, comment ça se passe, je ferai probablement une vidéo demain.
Ah oui, on la partagera d'ailleurs.
Et tu referas le stock du coup à Noël pour le reste de la saison.
Je sais pas encore si j'y vais. Noël normalement là j'irai pas. J'aurais beaucoup aimé. En fait, ce qui était prévu, c'est que j'aurais voulu y aller là pour à Zeytoun et faire l'huile d'olive. Mais voilà, bon, petit problème de planning. On verra l'année prochaine.
Et j'ai aussi vu, puisque comme tu as pu le comprendre, c'est un peu mon champ d'action, que tu avais un projet artistique dans ton village. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc, brièvement, comme je disais, je suis sur tous les fronts, j'aime bien proposer des trucs. Et mon village, c'est un tout petit village, comme beaucoup d'entre nous. Il y a une trentaine d'habitants et je sais pas, j'ai un amour particulier pour mon village, ça s'explique pas. Je pense que beaucoup de monde comprendra ce que je dis, mais j'aime mon village. Et le voir mourir petit à petit et sans rien faire, ça me désole un peu. Donc pour qu'il faire un peu le buzz, pour le maintenir vivant, j'ai fait tout un tas de trucs, enfin depuis des années, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai peut-être 10 ans, 12 ans, j'avais créé un blog à l'époque sur le village. Après j'ai référencé la page Wikipédia, j'ai mis des trucs sur TripAdvisor, j'ai mis des points d'intérêt sur Google Maps, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de trucs. Pareil, j'ai créé des réseaux sociaux pour mon village. Et là, par exemple, justement, donc il y a peut-être 4 ans de ça, si je me dis pas de conneries, j'ai décidé de contacter des artistes du monde entier, de leur dire envoyez-moi un truc et je vais mettre dans mon village. Je me suis pris des vents, mais j'ai surtout eu beaucoup de réponses positives, ce qui m'a surpris. Donc je recevais des posters, des stickers, des petites sculptures, du tricot et des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à les mettre dans mon village. Et donc j'ai fait ça les deux premières années pour faire une sorte de buzz. Après, il y a eu des gens qui sont venus qui ont peint directement dans le village. Donc il y a des vraies fresques de street artistes dans mon village. Il y a eu aussi une édition où j'ai demandé aux gens de m'envoyer des trucs en dur parce que les collages et tout ça, ça tient le temps que ça tient, mais il y a la pluie qui les enlève, ou le gel, l'hiver, le vent, et même les escargots qui bouffent les œuvres. Ça, je m'y attendais pas, mais les escargots ont mangé les œuvres. Donc j'ai mis des trucs en céramique, en carrelage et tout ça. Et là, la dernière année, donc cet été, c'était les 20 ans d'une statue qui est dans mon village, une statue que j'avais contribué à installer quand j'étais jeune, du coup, il y a 20 ans. Et là, c'était 20 ans de la statue, donc j'ai demandé à différents artistes, enfin illustrateurs du monde entier, de réinterpréter cette statue dans leur style. Donc j'ai fait imprimer sur des bâches en vinyle les différentes réinterprétations que j'ai affichées devant la statue. Et donc du coup, là, il y a 8 œuvres et 8 interprétations de cette statue dans mon village.
C'était une statue de quoi ?
D'une légende du village, du supposé fondateur du village. Enfin, c'est pas supposé, parce que les gens, enfin, c'est des légendes qui se racontent depuis de génération en génération. Et on a retrouvé ces maisons théoriques, et on a pu les voir. Et donc voilà, c'est une légende du village.
Et toujours un peu dans ce lien que tu as avec le Portugal, en octobre 2021, tu as gagné le prix Cap Magellan, Jean Pina, entreprise de la meilleure initiative citoyenne, lors du Gala de la mairie de Paris, sur une programmation donc de Cap Magellan. Et ton projet, justement, en lien avec le Portugal, toujours de cette mémoire, de cette continuité, c'était de racheter des médailles de soldats portugais de la Première Guerre mondiale pour les offrir à un musée portugais. Et lundi, justement, on célébrait 11 novembre 1918, date donc qui a marqué la fin de cette guerre. Trouves-tu qu'on manque encore d'informations sur la participation des Portugais lors de la Première Guerre mondiale ?
Ah oui, mais clairement, ça, même des Portugais ne savent pas que les Portugais a participé à la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment un gros souci. Et effectivement, du coup, j'avais touché un prix pour parce que j'ai acheté des médailles et j'ai offert des trucs, parce que je collectionne aussi beaucoup de trucs autour de la culture portugaise. Chez moi, j'ai plein de timbres, plein de cartes postales, plein de trucs. Enfin, c'est ma femme me prend pour un fou, parce que dès que je vois un truc en lien avec le Portugal, qui est un peu ancien, etc., je l'achète. Et là, donc, j'avais un vieux journal français qui parlait de l'arrivée des troupes portugaises en France. J'avais une carte postale militaire qu'un soldat portugais avait envoyé à sa famille au Portugal. Et j'ai acheté aussi justement une médaille portugaise en faisant un crowdfunding pour que les gens se sentent impliqués. Et j'avais été récompensé par le prix Cap Magellan. Et bah, c'était 500 euros, si je dis pas de bêtises. Et ces 500 euros, bah, j'en ai fait don aussi aux pompiers de Porto de Mos aussi. Toujours dans cette volonté de contribuer à... C'est pas parce que je suis pas au Portugal, que je suis pas dans mon village, que je peux pas contribuer à la vie de la région et au prestige, à l'aura de ma région.
Et comment justement réagit le musée quand tu leur offres?
Bah, ils étaient incroyablement surpris, ils s'y attendaient pas. Et il y a un truc aussi, bah, pour l'anecdote justement, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que donc du coup, quand j'ai été remettre ces choses-là au musée, donc on discute un peu avec la conservatrice du musée, et elle m'a fait une réflexion, elle m'a dit qu'elle était surprise de mon niveau de portugais. Parce que justement, elle avait cette image, ça c'est un truc dont on pourra parler, mais il faudrait 3 émissions pour en parler, donc on va pas lancer le sujet. Mais pour moi, il y a vraiment, ça se détériore l'image de la communauté, enfin d'où avec, comme on dit, enfin comme eux ils disent. Pour moi, c'est une insulte, mais voilà.
Pour eux aussi, je pense.
Ouais, mais enfin, c'est une insulte qui passe partout. C'est amical, ça passe. Voilà, c'est on rigole du monde. Donc ça, je contribue aussi à, enfin j'essaye à mon humble niveau de montrer que non, les Portugais de France, c'est pas que des avecs, c'est pas des mecs ou des femmes, des kékés qui se croient tout permis une fois qu'ils sont là-bas et tout ça. Non, il y a des gens aussi tout à fait normaux comme vous et moi.
Des gens sérieux,
des écouteurs. Voilà, il y a des gens sérieux. Il y a de tout. Après, oui, des kékés, il y en a, mais il y en a partout et de tous les côtés.
Bah, c'est aussi un peu le cliché qu'on a voulu peut-être leur mettre dans la tête, c'est à un moment donné. Ouais, hein.
Mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je sens même des tensions qu'il y avait pas il y a quelques années de ça encore. Entre justement les Portugais du Portugal et les Portugais de France notamment. Et donc voilà, j'essaye de contribuer à redorer cette image.
Mais c'est vrai que c'est un sujet quand même assez compliqué. D'ailleurs, Antonin, je crois que tu avais une autre question.
Bah, un peu toujours dans ce lien de, pour nous les immigrés, enfin les personnes qui vivent en France, les Portugais de France, pour apprendre à mieux connaître le Portugal, tu as lancé il y a quelques années un guide de voyage gratuit. Donc l'objectif, c'était quoi exactement ? Montrer le vrai Portugal ?
Ouais. C'est vrai que c'est un lien. Enfin, de toute façon, je suis m'envoyer un message sur les réseaux et je vous enverrai le lien. J'ai mis à disposition une carte Google Maps, justement où j'ai mis des pins sur tous les trucs que j'ai visités ou tous les trucs que je recommande, parce que j'ai sillonné le Portugal. Il me manque les îles, mais le Portugal continental, j'ai quand même bien sillonné. Et j'ai fait un petit guide PDF aussi que je mets à disposition des gens. En fait, derrière ça, ce que je veux, c'est dire aux gens, restez pas au village. Même si j'adore mon village, là, comme je l'ai dit. Il y a tellement à découvrir au Portugal que voilà, ça coûte rien de même une expédition d'une petite journée, parce qu'on va à chaque fois on dit oui c'est cher. Non, mais une expédition d'une petite journée, même y aller en vélo, il y a autour de tous les villages portugais, il y a plein de trucs à découvrir. Et des fois il suffit de faire que 5-10 kilomètres et tomber sur des choses incroyables à visiter. Donc sortez de vos villages et allez visiter le Portugal.
Mais justement, en fait, là je viens de me poser une question. T'as énormément de projets en tête.
t'as fait beaucoup de projets. T'en as d'autres encore en tête que tu voudrais développer, parce que là j'ai l'impression que t'as presque tout fait.
Ouais ouais. Enfin, j'ai un naturel, je pense, hyper actif. Parce que là on parle de tout ça, mais on parle pas de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Parce que ça c'est pas mon vrai travail. Hein. Et à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de trucs. Mais ouais, c'est.
En fait, on te connaît plus sur la facette.
Oui, la partie, ouais, ma partie publique, on va dire.
Bah, c'est ça que tu veux mettre en avant. Ouais,
c'est ça que je mets en avant. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai aussi beaucoup d'autres projets professionnels et personnels. Mais ouais, en fait, je supporte pas l'immobilisme. Et j'ai besoin toujours. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de créer, de communiquer, de proposer des choses. Je peux pas être immobile. Et c'est un truc peut-être aussi. Enfin, c'est un truc très important et qu'il faut avoir, c'est faut avoir de l'ambition et c'est surtout faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut pas avoir peur tout court en fait. C'est là par exemple s'exposer sur les réseaux sociaux, ça peut faire peur parce que c'est vrai que bon, quand on s'expose, on accepte aussi d'avoir des critiques, d'avoir des haters, d'avoir des gens qui nous insultent, etc. Mais c'est à double tranchant en fait. Le problème c'est que le cerveau humain retient toujours le négatif. Mais à côté de ça, il y a énormément de positifs aussi. Enfin, moi, je suis quelqu'un de droit. Je suis persuadé que ce que je fais, ça va dans le bon sens. Donc, je m'en fous des critiques. Faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant.
Bah, clairement. Et d'ailleurs, un peu dans cette optique d'avoir un ressenti face au vrai message ou à l'historique de la communauté, t'as lancé en 2023 le grand sondage des buzzos français. Et quelle a été un peu pour toi les conclusions que t'as pu en tirer? De ce sondage, de ce fameux sondage.
Bah, les conclusions de ce sondage, c'est il y avait beaucoup de pages, beaucoup de questions. Forcément, ça a permis d'avoir des tendances dans la communauté. Ça a confirmé ce que je pensais, que oui, bah les gens sont inquiets pour la transmission de la langue, que il y a beaucoup de questions qui se posaient. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que en fait, voilà, pendant un moment, je m'étais beaucoup engagé, même auprès des associations, au niveau de nos représentants officiels et de nos représentants et tout. Et je leur ai envoyé aussi ce sondage-là. Et en fait, c'est un truc que je me suis détaché complètement. C'est l'immobilisme des institutions portugaises. C'est pour ça que j'ai lâché tout ça et je fais les trucs de mon côté. Et puis voilà.
Eh ben, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Thiago, pour avoir répondu à nos questions. Et même plus généralement, merci pour tous tes projets que tu fais pour faire grandir la communauté portugaise. Hein. Je pense qu'on n'est pas insensible.
Vous faites pareil. Donc, merci à vous aussi.
Et on continuera, de toute façon, à suivre tes projets de très près. Restez avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à 16h. Tout de suite, je vous laisse avec une musique que t'as choisie aussi, non? Si je dis pas de bêtises.
Bah, c'est pas ça laquelle.
Vince Dole?
Oui, c'est
bien Phoenix,
oui,
RDC. Une musique que t'as choisie, donc d'ici 5 minutes. Et d'ici 5 minutes, on se retrouve pour la curiosité de la semaine avec Laura.
Passa a noite no estúdio, dia com sono. Juro que agora ninguém me para. Trago o estúdio na mala, preciso não rala. Mas sei que me querem na vala. Isso dá-me garra, pouca uva e muita parra. Muito urso fala de bordo. Saí do caminho da bala, que é pra fazer dinheiro com os meus followers. Eu nunca imaginei que um dia iria viver das rhymes. Quando menos eu esperava, brilhei e dei por mim numa van. Toca a Jessica e com o meu mano. Na estrada já faz um ano. Por isso é que eu vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Tocar guitarra, esfola o dedo, vamos sem medo. Se é pra cantar ao vivo num programa é sem medo. O rap é o meu emprego, ou eu já perdi o medo. E vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Com beat ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia, eu dou espetáculo sem medo. Stick up, tá na bag. Na verdade o meu segredo é que eu me entrego e vou em frente sem medo. Norte a sul tipo bola de ping pong. Se morrer hoje já faço parte da história do hip hop. O mundo dá voltas, derrotas fizeram-me strong.
Há quem diga que é mérito, mas também há quem diga que é sorte. Certeza que não viram gordo back in the day, quando eu dava socos na lei. Hoje ratos de esgoto pensam que são reis. Eu tô com mais jealous que cash. Os ocos deram-me com os pés, isso só me fez ficar com mais sede. Por isso é que eu vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Tocar guitarras, falo o dedo, vamos sem medo. Se é pra cantar ao vivo num programa é sem medo. O rap é o meu emprego, boy, eu já perdi o medo. E vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Com beat ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia, eu dou espetáculo sem medo. Meus tropas estão na pele. Na verdade, o meu segredo é que eu me entrego e vou em frente sem medo.
Yeah.
A minha hora chegou. Hoje vivo do flow, muitos rappers já sabem quem sou. E agora já tentam bifar que é pra estar onde eu tô. Tipo com um gajo nem lutou. Quanto mais velho, mais raw. Agora esses niggas é só props. Real talk is o prof, yeah. Tu não me eliminas, sou uma mina que domina. Subestima e mas não passa de uma cópia. Não sou um sellout, nigga, tô com o rei na barriga. Eles falam, yeah, yeah. Mas quando eu tava lá na esquina nem te via mais. Hoje eu sei que a blá blá nem me tenta ouvir o som. Agora sou banda sonora, mainstream. Mas nunca me vendo. Rap, respiro cá dentro, ande sem medo. Tocar guitarras, falo de vamos sem medo. Se é pra cantar ao vivo num programa é sem medo. O rap é o meu emprego, boy, eu já perdi o medo. Vou encher os cofres e os bolsos sem medo. Com beat ou a capela, bora agora sem medo. Se não tiver plateia, eu dou espetáculo sem medo. Minha família tá na bag, yeah. Na verdade o meu segredo é que eu me entrego e vou em frente sem medo.
Temstat 2.1 sur Radio Alpha, d'ici 5 minutes, on écoutera ça. De Joke Pissar, c'est sorti hier, c'est le titre éponyme d'un EP surprise de 4 morceaux, et ça, on aime ici. On l'écoutera en entier d'ici 5 minutes. Alors, juste avant, on avait une question sur le WhatsApp, justement, de Federico. Justement, Thiago, tu veux pas nous divulguer le nom de ton village?
Alors, c'est Barente, da freguesia de Alvar de Alqueria, no concelho de Porto Mós, distrito de Leiria. Voilà, vous avez toutes les informations.
T'as fait tout le nom administratif. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la curiosité de la semaine. Laura, t'as quelques infos à nous présenter.
Oui, alors pour commencer, une triste nouvelle. Slash Tkeiru, qui est décédé hier à l'âge de 91 ans. Pour rappel, c'était la femme à qui l'on devait le nom de la Révolution des œillets, puisqu'elle avait donné ses fleurs à des soldats le 25 avril 1974. Sur une note plus joyeuse, est-ce que vous aimez le fromage ?
La transition est absolument...
Vraiment une transition excellente. Oui, pour répondre à ta question, oui.
Le fromage portugais.
Ah, moi j'adore le fromage français, justement. Et c'est un truc qui m'a beaucoup manqué quand j'étais au Japon un an, ouais.
Ah, j'imagine. Eh bien, sachez que cette semaine, c'est à Viseu que se tient le championnat du monde de fromage, le World Cheese Awards, du 15 au 17 novembre. Parmi les 4500 fromages de plus de 40 pays en compétition, nous aurons 182 fromages portugais en compétition. Pas mal, non ?
Ah, c'est énorme.
Ah, clairement. Ça d'y aller.
Et bah, il y a Taste Atlas qui est un truc de nourriture.
Je l'avais vu aussi.
Ah, j'ai cru que t'avais, parce que je voulais pas te
couper. Je l'avais vu aussi, oui.
Mais Taste Atlas, justement, c'est un classement gastronomique de un peu tout et n'importe quoi. Favorable au Portugal, donc c'est plutôt cool.
Souvent, les avis portugais sont très bons d'ailleurs.
Parce qu'en fait, c'est le public qui vote. Là, pour ces trucs-là, c'est pas des chefs ou c'est pas des journalistes. C'est le public qui vote. Le fromage de Salada Estrela, c'est le meilleur fromage de mouton du monde, d'après eux.
C'est incroyable.
Et en tout cas, pour la deuxième curiosité de la semaine, on part au Brésil. Cette semaine, le premier épisode de Nouvelle École Brésil est sorti. Pour rappel, c'est un concours de rap qui est jugé par 3 artistes du pays. Donc en France, dans la dernière saison, on a eu le droit à SCH, SDM et Aya Nakamura. Pour l'édition brésilienne, le jury sera composé de Philippe Rett, Jung et Tasha et Tracy. On espère découvrir de nouveaux artistes, peut-être que ça inspirera Antonin.
Clairement, toujours hâte de découvrir de nouveaux talents musicaux, vraiment, et autres même.
Ah ben surtout, ça va te donner beaucoup d'idées, même du Brésil.
Ah bien sûr, j'adore ça.
Et je vous propose, comme promis, d'écouter en entier cette fois-ci donc Chouva de Diogo Pissarro, qui est déjà passé par Themstadwesh.on, juste avant la rubrique Dantôt le disquaire de Porto.
Sinto que a tempestade chegou sem avisar. Fecho os meus olhos, deixo-me perder. Oh, não sei se vai passar, se devo continuar. Enquanto vejo tudo escurecer, diz-me se ainda vou a tempo para ter-te. Tudo isto pode ser verdade. No meio da chuva não dá para te encontrar. Por mais que passe o tempo, o céu fica mais nublado. Eu espero por ti, eu fico para sempre preso. Quando escurecer, parece que foi tudo em vão. Mesmo no meio da escuridão, ainda vejo uma forma de ser. Eu não sei porque já. Que chove sobre mim, sobre mim.
Está dois ponto um na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o momento da rubrica musical com o Antonin, autor de Esquerda do Porto.
Exatamente, e desta vez não fui buscar na minha loja imaginária de disco e vinis que eu gostaria de ter, mas na atualidade, porque também lá viram, talvez, mas eu vi no Instagram um vídeo da Bianca Costa, a grande cantora brasileira em França, publicado em colaboração com o Museu Francês do Luxemburgo. Já adivinhou a que propósito era este vídeo aqui na sala?
Não vi.
Não viram este vídeo? Era um excerto de uma música em parceria com o Museu do Luxemburgo em Paris, para a promoção da exposição da artista Tarsila do Amaral, da qual já falámos um pouco no Tempestade. E sobre esta pintora que revolucionou a arte brasileira, participando ao movimento modernista ao lado de Anita Malfatti, do Menotti da Picchia, do Oswaldo de Andrade e do Mário de Andrade. E tivemos a oportunidade de visitar a exposição esta sexta-feira com a Laura, e tenho que dizer que foi mesmo incrível. Gostei muito eu das cores e da maneira de representar o modernismo, a sociedade brasileira. Gostaste também de uma coisa, Laura? Uma coisa que anotaste?
Sim, eu adorei. Eu adorei as cores, adorei tudo. Eu gosto muito desta artista.
Era mesmo uma exposição que não se pode faltar. É visitável até fevereiro de 2025 e os bilhetes são gratuitos pelos jovens de menos de 26 anos da União Europeia nas manhãs de semana. Recomendo mesmo. Mas agora estão-se a dizer: oh, António, não estás a falar de música hoje? Não, estou mesmo a falar de música. Porque vamos voltar para a música da promoção, deste vídeo de promoção. Vamos ouvi-la, porque eu sei que estavam a ficar ansiosa. Era Diz Que Eu Fui Por Aí, por Bianca Costa, que é uma música que não é dela. Vamos logo falar deste da artista original. Até já.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu entro, em qualquer botequim eu paro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.
Então é uma cover da música de Bossa Nova, Diz Que Eu Fui Por Aí, desta vez cantado por Bianca Costa. Já tinham visto uma cantora promover uma exposição ou um evento cultural com uma música sua ou de outra pessoa? Acham o processo interessante aqui?
Olha, eu nunca ouvi uma artista, só vi a Beyoncé e o Jay-Z que fizeram um clipe no Museu do Louvre. Exato. Mas mesmo a promoção assim, nunca vi. É interessante de saber isto.
Sim, eu acho super interessante também misturar as duas formas de arte.
Eu também, mas agora estou a pensar, mas não me lembro de...
Também não tinha muitos exemplos, e os museus franceses estão adiante com estas inovações sobre a promoção cultural, e acho isso muito interessante. Mas então, como eu estava a dizer, a Bianca Costa não é a artista original de canção cantada, é a Nara Leão. Já tinham ouvido o nome da Nara Leão aqui?
Não conheço. Não.
Ela tem uma história muito parecida, um pouco parecida, vamos dizer, com a Tarsila do Amaral, da qual falámos no momento da exposição. Ela nasceu em 1942 no Espírito Santo, no Brasil. A Nara Leão começou a música muito, muito jovem. Seguiu aulas de violão por Patrício Teixeira, que era membro dos Batutas, que é um dos primeiros grupos a tocar samba em Paris nos anos 20. Então, tal como a Tarsila do Amaral, Nara Leão tornou-se no símbolo do movimento cultural da sua época, ganhando o título de Musa da Bossa Nova. Sabe o que é uma musa?
Acho que sei, uma deusa que representa a inspiração divina dos artistas.
Exatamente.
Eu aprendi a definição do Wikipedia.
Exato, muito bem. É bom saber a mitologia grega, às vezes, também, porque há muitas metáforas, referências a isto. Então, ela era a musa da Bossa Nova. Mas então, como é que uma pessoa torna-se num símbolo da sua corrente artística? Claro, eu não posso fazer um tutorial, não é uma coisa tão fácil, mas é mesmo estar no sítio correto, no momento oportuno. A Tarsila do Amaral, por exemplo, ela fez uma pintura, o Abaporu, para o aniversário do seu marido, que se tornou-se num símbolo do modernismo plástico brasileiro, e, por sua conta, Nara Leão começou com uma peça de teatro musical que chama-se Pobre Menina Rica, em 1963, e Opinião no ano a seguir. E atingiram imenso sucesso, e assim que ela tornou-se nessa musa da Bossa Nova, a Nara Leão, com a peça de teatro Opinião. E já vamos ouvir um excerto desta música Opinião agora mesmo na Rádio Alfina Tempestade.
Podem me prender. sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar, deixo andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do
Esta música apareceu em 1964, mesmo no ano do início da ditadura do Kubitschev no Brasil, e teve um imenso impacto na contestação artística dessas políticas. Fez parte, já estávamos antes na rubrica Arte em Ondas, de falar da ligação entre política, contestação social e arte. E esse espetáculo musical formado por Nala Leão, João Duval e Zeca Kati era mesmo no centro dessa contestação política. E os atores cantores produziam canções com narrações referentes a problemáticas sociais do país. E tornou-se mesmo uma referência no género das músicas do protesto. Podemos agora, com essa música que acabamos de ouvir, na letra da canção Opinião, podemos ouvir versos como: se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. Podem prender-me, podem bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. E já podemos ver que, como esse texto é assim, que iam provocar a fúria do governo do Kubitschev e da censura, claro. Mas o governo neste momento ainda era fraco, não tinha ainda todos os organismos de repressão como o ato institucional número 5 em 1968, do qual já falámos um pouco na nossa rubrica sobre a Bossa Nova e o António Carlos Jobim. Mas então, a Nara Leão, graças a este sucesso da peça de teatro musical e destas canções de protesto, a sua carreira foi toda lançada. A Nara Leão fez a escolha de afastar-se depois da Bossa Nova pura, continuando a sua música de intervenção crítica, e continuou nos anos 80 com muito sucesso, viajando pelo Brasil e pelo mundo, lançando novos discos, gravando canções, atuando em músicas nos teatros e fazendo parcerias musicais, como a Bianca Costa hoje. E nessa época ela também até viajou para o Japão, onde divulgou a música popular brasileira. E também agora encontramos outra ligação entre esses dois países dos quais falámos noutras rubricas, como o Masayoshi Takanaka, que podem encontrar no podcast da Tempestade, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. Mas infelizmente a Nara Leão morreu lentamente de um tumor no cérebro. Ela aguentou graças à sua forte força de caráter e à sua música durante 10 e tal anos, e desapareceu em 1988 no Rio de Janeiro, a sua cidade de origem. E também é um pouco por isso que fiquei muito interessado pela nova interpretação do seu título, Diz Que Eu Fui Por Aí, pela Bianca Costa. Para acabar esta rúbrica, vamos ouvir uma das músicas mais famosas da Nara Leão e a sua interpretação de Outra Vez, um dos títulos mais icónicos do Tom Jobim, claro que todos aqui conhecemos, e aqui vamos ficar sobre essa rúbrica sobre a Nara Leão e esta exposição sobre a Tarsila de Amaral, que está agora no Museu do Luxemburgo.
Olha, muito obrigado, António, pela descoberta. Vamos lá então ouvir isto, e daqui a 5 minutos voltamos com os bons pão da semana, nomeadamente a exposição de Tarsila do Amaral. Até já!
Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar.
que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai. Tudo agora é só tristeza. Traz saudade de você.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, sur l'émission Thème Stade 2.1. On vient de s'écouter la rubrique Anto, le disquaire de Porto, et on se faisait une petite réflexion, Antonin. Comment est-ce que tu trouves ces sujets d'inspiration?
En fait, en général, ça vient avant tout de gens qui me montrent des musiques. J'ai vraiment plein de gens qui m'envoient des musiques, qui me disent « Vas-y, écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. » Ou alors, après, tu cherches sur des sites les liaisons entre les musiques, ça qui est le plus marrant. Parce qu'en fait, quand tu écoutes une musique dans l'actualité, comme par exemple là, Bien que quand j'étais à la reprise, tu te dis « Mais en fait, ça vient d'où ?» Parce qu'on dirait que ça vient d'un autre temps. Et je trouve que c'est un truc qui a toujours été intéressant dans la musique et dans l'art en général, c'est la référence. Et moi, j'en parle souvent avec le sample et tout ça. Mais en fait, c'est quand tu références ton travail à des trucs passés, t'as directement un héritage. Et du coup, nous, en tant que chroniqueurs aujourd'hui, on peut faire ce chemin historique et donc, en fait, montrer à tout le monde d'où viennent ces artistes d'aujourd'hui, quelles sont leurs références, quelles sont leurs inspirations et comment nous, est-ce que en tant que chroniqueurs normaux et vous, en tant qu'auditeurs, vous pouvez vous inspirer vous aussi de ces mêmes références et des artistes contemporains pour créer votre propre art et musique potentiellement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai un peu. C'est la curiosité au final.
Bah, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est un domaine tellement large. On peut parler de tout pour la musique. Et Antonin, d'ailleurs, a toujours, chaque semaine, des nouvelles pépites à vous présenter. Donc, restez bien sur Thème Stade 2 Ponton. L'émission, d'ailleurs, touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Grande nouvelle, Thème Stade 2 Ponton est désormais disponible en podcast, par rubrique, sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc, je vous invite à l'écouter, vous abonner, ajouter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et on attend les retours et les avis également pour continuer à nous faire
et à partager.
Et à partager, exactement. Cette année, Cap Magellan est de retour avec son gala annuel. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour candidater au prix Cap Magellan. Donc, pour rappel, il s'agit de 6 prix financiers de 1 500 € et un prix musical non financier qui seront remis lors de cette nuit. Retrouvez le formule sur le site de Cap Magellan.
Exactement. Et maintenant, pour les événements à venir, l'auteur de livres pour enfants et jeunes adultes, Eunice DM, est au Festival du Livre à Asnières, aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à passer la voir. Ensuite, Céline Pereira sera au Porto Loggia pour une soirée fado le 20 novembre. N'oubliez pas de réserver sur le site. Et évidemment, jusqu'au 1er décembre, assistez au spectacle Louise de Match, dont on a diffusé l'interview la semaine dernière. Et d'ailleurs, une vidéo sur YouTube qui retransmet cela sera aussi disponible prochainement. Donc, le spectacle qui s'appelle Impossible est sur scène au Folies Bergères Paris 9e, relâche le lundi. Jusqu'au 2 février, vous pouvez aussi aller voir donc l'exposition dont on a parlé de l'artiste Tercila do Amaral, figure centrale du modernisme brésilien au musée du Luxembourg de Paris. Donc pour les jeunes, comme on le disait, les jeunes de moins de 26 ans de l'Union Européenne, vous avez droit à des billets gratuits tous les matins, sauf le week-end. Donc si vous avez le temps,
foncez-y, c'est vraiment magnifique. Du 29 novembre au 1er septembre aura lieu aussi la première édition du Festival Cinéma Portugais All Up Paris. Prenez vos places dès maintenant. Et finalement, donc on parlait encore une fois du Festival de l'Eurovision au moment de l'événement de la semaine. Et donc rappelez-vous que c'est ce soir. N'oubliez pas d'aller voter. D'ailleurs, selon un site de sondage Eurovision World, le Portugal occupe la première place des préférences avec à peu près 24% de plus des 19 000 votes pour le Portugal, donc la victoire de Vitória Nicole, qui a donc 13 ans avec sa musique Esperança. Et donc, ça va être un moment magnifique ce soir et on vous invite à le suivre et donc à supporter le Portugal, potentiellement qui sera peut-être victorieux ce soir. On y croit, on croise les doigts. Et voilà, c'est la fin pour les bons plans de cette semaine. Merci à tous. Voilà.
Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thiago d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir.
C'est toujours un plaisir de venir ici.
Tu peux nous rappeler les 4 tomes que tu as prévu de sortir du coup ?
Alors le premier c'est Vive les vacances, on retrace les vacances. Le deuxième c'est Voyage dans le temps, donc ce sera un voyage dans le temps de l'histoire du Portugal. Le troisième ça sera... Je suis perdu. Ah, Voyage à travers le Portugal, c'est le 2. Voyage dans le temps, c'est le 3. Et le dernier, le 4e, ce sera Voyage dans la lusophonie.
Très bien, mais écoute, on a hâte d'aller acheter tout ça. On peut les acheter en librairie, partout,
et dans les magasins portugais aussi. Les commerces alimentaires portugais en ont beaucoup.
Ça marche. Merci beaucoup. Merci Laura pour ta rubrique Arte Ondes. On remercie aussi Restless qui d'ailleurs nous a adressé un petit message pour te féliciter. Donc on continue toujours à te suivre. Hein. Et d'ailleurs, chaque fois que tu viens, tu as des nouvelles pépites à nous proposer, que ce soit des artistes urbains, même d'autres. Hein.
J'espère que ça plaît à tout le monde, en tout cas autant qu'à moi.
Tu prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à écrire ces rubriques, et d'ailleurs ça se sent quand tu lis. Merci Antonin aussi pour ta rubrique Anto le disquaire de Porto. Toujours des nouvelles musiques.
C'est des fleurs là, c'est bon.
Et d'ailleurs tu parles toujours du Japon, mais c'est normal encore une fois. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que rapprocher les Japon et le Portugal, c'est pas évident à la base.
Exactement, et de plus en plus et plus je creuse, et bah, évidemment avec le recul depuis que je suis revenu, je découvre de nombreux articles, de nombreux livres qui ont été publiés sur cette relation. Là tout récemment, on m'a parlé d'un livre que peut-être dans lequel je ferai la... j'en parlerai un moment sur comment est-ce que les Portugais et les Japonais se différenciaient culturellement au moment de la visite des Portugais au XVIIe siècle. Et en fait, il y avait un livre qui a été écrit par un frère, donc un des religieux qui était là-bas et qui notait donc et qui parle de ces différences culturelles.
J'en ai même fait un reel parce que j'étais aussi au Japon et j'ai fait un reel seulement sur mes petites trouvailles.
Exactement, on vous encourage tous à aller voir tout cela. C'est évidemment la richesse culturelle et multiculturelle ne s'étend pas seulement aux limites de la lusophonie. Et nous, on est des Portugais et on représente la lusophonie en général en France, mais on ne s'arrêtera jamais à ces barrières-là. On représente tout le monde et c'est ça qui est beau avec Tempsa et avec la multiculturalité en général.
Exactement, merci beaucoup Antonin. Donc merci encore une fois d'avoir été présent avec nous sur Tempsa Dwesh Ponton. On se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité et on va se laisser avec une des musiques du moment, APT, Rosé, Bruno Mars. C'est parti, ciao ciao.
À la semaine prochaine tout le monde.
À la prochaine.
À l'année prochaine. The game.
Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. All done.